Lorsqu'ils avaient reçu la nouvelle, la merveilleuse nouvelle de la nomination à Earl University, en Caroline du Nord, ils avaient vécu quelques jours de félicité. Une félicité coupable. Ils allaient quitter la France, quitter Paris, laisser derrière eux les insolubles problèmes de stationnement, les visages moroses, les bousculades dans le métro, les minutes de silence, la peur d'un nouvel attentat islamiste, le passage honteux de l'incrédulité au fatalisme. Ils abandonneraient le vieux pays fatigué et divisé pour une contrée neuve et pimpante. La nation drapée dans sa dignité ancienne, dans sa splendeur déchue, les verrait partir pour une aventure sans conséquences. À la légèreté. « La nature est magnifique là-bas », avait dit Hector. Le soir même, il faisait défiler sur l'écran de l'ordinateur, pour Sylvie et Lester, des images d'arbres géants, de côtes rocheuses vertes et sauvages, aux falaises douces plantées de fleurettes jaunes, qui s'étiraient sur des dizaines de kilomètres. Les Outer Banks se dessinaient, chapelets d'îles, bancs de sables infinis, langues de terre qui serpentaient dans l'eau turquoise, Camargue démesurée, intacte. Leurs trois visages, éclairés par la lueur bleuâtre, rêvaient à des immensités.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Pour les Vickery, passer une année universitaire aux États-Unis, loin de l'ambiance mortifère régnant en France après les attentats de janvier 2015, représente une véritable chance à saisir. Hector, sexagénaire séducteur, professeur de littérature et poète à 16 heures, y trouve enfin une reconnaissance bienvenue. Sylvie, sa femme, peu sûre d'elle, secrète et rêveuse, laisse comme d'habitude les choses se faire. Quant à leur fils, Lester, en pleine crise d'adolescence, son étrange quête mystique, une fois de l'autre côté de l'océan, le transformera en gourou. Au pays de la réinvention de soi et de la deuxième chance, tous trois vont découvrir leur véritable nature. La chance de leur vie, nouveau roman d'Agnès de Sartre, paru aux éditions de l'Olivier, est un livre qui nous parle de cet ébranlement intime que chacun d'entre nous ressent depuis que les attentats ont endeuillé la France. Besoin de s'alléger, désir de fuite, quête d'un accomplissement inespéré, la vie entre parenthèses qu'offre le séjour dans un pays où les rêves sont réputés réalisables sera pour les Vickery l'occasion d'un dévoilement de leur véritable personnalité. Cruel et drôle, tendre et dérangeant, ce roman nous pose quantité de questions sur ce qu'est la fidélité, l'amour, le couple et l'indispensable respect de la part d'ombre à quoi chacun de nous a droit. Bonsoir Agnès de Sartre.
Bonsoir Kathleen Eva.
D'ordinaire, vos romans se déroulent dans des lieux, des temps un peu indéfinis. On ne sait pas la date précise, le lieu précis. Au contraire de celui-ci qui est très précisément situé entre les attentats de Charlie Hebdo et les attentats du Bataclan. Et à un moment où l'Amérique va choisir un nouveau président, qui sera, croit-on, une présidente. C'est donc une tranche de vie très précise. Et je me demandais si c'était ce désir-là d'écrire, même de biais, sur une période qui nous a tous marqués, ou si c'est au fond, en partant de l'histoire d'une famille qui s'exile pendant un an, que tout d'un coup, l'actualité s'était imposée.
Alors, curieusement, je crois que si j'avais eu pour projet de m'emparer des attentats, pour dire les choses de manière très résumée, je n'aurais jamais osé le faire et je pense que je n'y serais pas du tout parvenue. Mais sans doute que c'était à l'œuvre de manière insu, souterraine, parce que je me rappelle qu'à l'époque, on était, je dis « on », c'est un « on » assez général en fait. C'était moi comme ma famille, des amis ou des gens croisés. On sentait que on était nombreux à se dire « ça a mal tourné, il faut qu'on parte ». Où aller, comment y aller, que faire, est-ce que partir c'est pas une désertion, etc. Donc il y avait quand même cette hantise qui était très présente. Donc ça, c'était le quotidien, voilà, la vie telle qu'elle se pense pas, telle qu'elle s'éprouve. Mais c'était pas le point de départ du livre. Il y avait aussi comme un courant plus lointain plus ancien, un questionnement chez moi par rapport à la France et à l'image que la France a d'elle-même. Et j'étais souvent stupéfiée de voir que dans ce pays qui est très beau, climatiquement clément, où on a un système de santé merveilleux, beaucoup d'avantages, une situation géographique parfaite, etc., une culture protégée, je me disais, tiens, c'est bizarre, on n'y est pourtant pas si heureux que ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces tensions? Pourquoi il y a cette morosité? Pourquoi il y a cette dureté dans les rapports? Cette incivilité? Et puis ce sentiment de pas y arriver, jamais y arriver. Et ça, c'était un sentiment que j'avais depuis très longtemps. Et peut-être qu'il s'est cristallisé, qu'il s'est encore renforcé au moment critique. Alors ça aussi, ça a été à l'œuvre, forcément, dans l'écriture. Mais le tout premier point de départ du livre n'était pas celui-ci. Mais souvent, j'adopte des détours pour arriver au point où je veux secrètement arriver. Donc, c'était peut-être une ruse que j'ai organisée pour moi-même.
Oui, mais très vite aussi, Agnès de Sarthe, il y a ce que vous aimez faire, c'est-à-dire de la fiction, qui est souvent présentée sous forme presque d'un conte. D'ailleurs, la première phrase de ce livre, c'est étonnant, c'est « Hector avait une femme ». Puis elle s'appelait Sylvie, ensemble ils avaient un fils, il s'appelait Lester. On dirait qu'on rentre dans un conte pour enfants. Et j'ai l'impression que là, dans ce livre, plus il y a eu de dureté à cause de l'actualité, de questionnements sur la France, les Français, le couple, la femme, l'homme, l'enfant, plus ce questionnement était dur, plus il était enrobé dans une fiction qui nous permet quoi, une forme de légèreté ou de distance.
De distance, je crois que c'était l'outil, d'une sorte de couteau suisse de ce livre, la distance. C'est-à-dire à la fois la distance, j'envoie ma famille, la famille de mon roman, Hector, Sylvie et Lester, à l'étranger, loin, pour pouvoir regarder mieux la France, à distance. Et il y avait aussi d'autres manières dont cette distance s'illustrait, qui était aussi dans la contemplation des rapports de couple, où, d'une certaine manière, je ne sais pas exactement comment c'est possible d'ailleurs, mais je n'étais pas du tout partie prenante. Alors que moi, on pourrait se dire, après tout, une femme qui vit en couple depuis plus de 30 ans, il y a quelque chose à exprimer, il y a une expérience à partager. Alors sans doute que ça participe un petit peu, mais j'avais l'impression de pouvoir être complètement extérieure, de pouvoir prendre une distance et d'examiner ce couple comme je regarderais une colonie de fourmis à distance. Et peut-être aussi parce que, comme vous l'avez évoqué, dans toute cette période de tension, de violence, de barbarie, il y avait aussi d'autres enjeux qui étaient eux plus intimes, mais qui sont violents aussi d'une autre façon, qui étaient toutes les tensions entre hommes et femmes, des nouvelles définitions des genres, des questionnements sur le sexe, sur une sorte de nouveau féminisme, etc. Tout ça me paraissait être aussi un domaine nouveau. Alors, il n'est pas si nouveau que ça, puisque ça prend ses racines, bien sûr, comme tout dans les années 70 et avant. Mais quand même, dans cette manifestation nouvelle, il y avait quelque chose aussi que j'avais envie d'explorer. Et pour ça, c'était pas mal aussi de prendre de la distance. Donc la distance, après, celle que vous soulignez, qui est la distance du conte, qui intervient par la narration, la façon dont je l'ouvre. Je crois que ça, c'est... vous avez tout à fait raison en disant qu'il y avait un besoin d'affirmer la fiction. C'est exactement ça. Surtout dans un pays où la fiction est extrêmement remise en question sans cesse depuis des années, suspectée, haïe, enviée, etc. Et moi, on n'y fera rien, je bougerai pas, je resterai toujours du côté de la fiction, c'est ce qui me plaît. C'est le lieu de la liberté. Et ça, j'y renoncerai pas.
Alors, comme d'ordinaire avec vous, Agnès de Sarthe, on ne rentre pas tout de suite dans les grands problèmes psychologiques, pas de description des états d'âme, mais une attention très très particulière aux détails. Alors, cet Hector, professeur vieillissant, va rentrer son ventre parce qu'il est vu par des yeux de femme qui voit en lui le Latin lover, le français qui va séduire tout le monde. Il a un col de chemise qu'il aime porter relevé et d'ailleurs quand on le lui rabaisse, ça le gêne. Il a des chaussures dans lesquelles il est bien, qu'il va laisser pendant un an de côté pour mettre des chaussures qui vont mieux à son nouveau personnage. Sa femme Sylvie, c'est une femme que vous décrivez comme n'étant rien, c'est-à-dire étant la femme d'Hector, étant quelqu'un qui laisse les choses se faire Et en même temps, au fil du livre, on la découvre beaucoup plus solide au fond, étant le pilier de ce couple. C'est drôle cette description, vous dites que vous êtes intéressé aux femmes, vos contemporaines, à leur héroïsme du quotidien. Et en même temps, cette Sylvie, elle est tout ce qu'on est supposé ne pas être. Elle ne travaille pas, elle n'affirme pas de goût, elle ne régente pas. C'est très étonnant, ce personnage de femme.
Ce personnage de femme, c'est une proposition. C'est une proposition et une réaction, je pense, de ma part, à la l'espèce de course à l'accomplissement et à la perfection dans laquelle se sont embarquées un certain nombre de femmes, pour la plupart avec une grande réussite d'ailleurs. Les femmes sont très courageuses et endurantes, donc ce qu'elles entreprennent en général, elles le réussissent. Mais à quel prix, je ne sais pas. Il y a une sorte de... J'ai trouvé, en fait, un des points de départ de ce livre était l'épuisement que je lisais sur le visage de mes contemporaines. L'épuisement, l'exaspération, la douleur... Et là encore, de la même manière qu'on pourrait se dire, tiens, que je me disais, tiens, voilà, France, pays merveilleux, etc. Pourquoi on s'y sent si mal? Et après, je me disais, mais femme, c'est merveilleux d'être une femme. Pourquoi on s'y sent si mal? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si éreintant? Parce qu'il y a tous ces rôles simultanés que doit endosser la femme, la mère, l'amante, la professionnelle, celle qui régente et qui en même temps accepte, celle qui suit et qui en même temps gouverne secrètement. Et j'ai inventé, c'est comme une sorte, c'est une invention d'une espèce de, oui, une femme postmoderne qui serait la femme d'après.
D'ailleurs,
alors vous dites, qui ressemble à la femme d'avant.
Ben oui, vous dites postmoderne, mais il y a une scène, on va pas la raconter parce que c'est une scène très étonnante du livre où Sylvie fait face à son beau-père, père d'Hector, et il la dépeint comme une femme des cavernes.
Oui.
Étonnamment attirante pour ça. Elle est dans le non-agir, mais elle est comme une idole inca, dit son mari. Mmh. Elle est un personnage pour les hommes fascinant parce qu'elle est belle, elle le sait pas.
Mmh.
Et elle est comme un mur sur lequel les hommes peuvent projeter aussi leur idée du couple, du bonheur, de la femme à la maison.
Et en même temps, elle est autonome par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle, ça ne l'entrave pas. Et d'une certaine manière, ça ne la concerne pas. C'est en ça, pour moi, qu'elle atteint une certaine émancipation paradoxale, parce que ce qui fait sa force, c'est qu'elle se fiche de tout ça, qu'elle n'est absolument pas soumise aux critères, qu'elle ne cherche pas à plaire, que plaire n'est pas tellement son... Elle ne se demande jamais, d'ailleurs, si elle plaît ou pas, ou alors de manière très fugace. Et ce qu'elle accomplit, c'est un projet d'ordre philosophique, même si elle ne l'appellera jamais comme ça parce qu'elle n'a aucune prétention intellectuelle, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas cultivée, bien au contraire. Et donc, elle agit selon un dogme taoïste du non-agir qui est une sorte de manière d'être là et que ça suffise. Ce qui est un projet presque irréalisable, mais qui est fondé en même temps sur ce qu'elle observe chez elle de ses différents âges. Et elle revient sur son enfance, sur son adolescence, et elle dit bien, à un moment, elle le formule, elle dit « j'ai été une petite fille, je suis devenue une femme ». On dit « devenir femme hein, » au moment des premières règles, et puis après, quand les règles s'arrêtent, ça s'appelle comment alors? On devient quoi? Et ben, je suis là. Et cette façon de se manifester comme ça, en étant là sans justification, sans sans se rattraper en faisant quelque chose d'extraordinaire, oui, bah pardon d'être là, mais en même temps, regardez ce que je vous apporte, c'est quand même une forme pour moi de victoire en mineur, de victoire assez infime et secrète, mais... Voilà, c'est une proposition.
Il y a aussi dans ce livre, Agnès de Sarthe, La chance de leur vie, quelque chose que on ne remarque même plus dans les livres d'hommes parlant de ce que fait l'âge au corps des hommes et à leur sexualité. Hein. On pense à Philippe Rost, bien sûr, à Romain Gary chez nous, à tant d'autres qui ont décrit sans que personne ne s'en offusque. C'est vrai que chez les femmes, parler des choses du corps et de ce que le passage du temps leur fait subir, ça ne se fait pas. Et vous, là, vous le faites.
Oui.
Elle en parle, Sylvie.
Oui, et c'était aussi une volonté complètement consciente, avouée, parce que j'étais nourrie, comme nous tous, de littérature masculine, parce que les hommes écrivent depuis beaucoup plus longtemps, tout simplement. Donc, on est plus habitués, on a un plus grand corpus. Et je me disais, c'est étonnant tout ce que je sais sur le corps des hommes, et que j'ai appris dans les livres. Il y a aussi les choses que j'ai apprises dans le réel, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je me disais, c'est fou quand même, ces leçons que j'ai reçues de tous ces auteurs, de choses très intimes, dont personne n'est censé être le témoin et que la littérature dévoile. Et j'essayais de voir s'il y avait l'équivalent pour les femmes. Et en fait, on voit bien, par exemple, que... Alors, pardon, je vais utiliser des mots un peu crus, mais par exemple, le mot « couille » est très sympathique. Les gens disent « Ah, il a pas de couilles, même elle a pas de couilles », et puis les gens rient, et puis c'est joyeux, ce mot est joyeux. Et puis alors, si vous dites le mot « ovaire », par exemple, alors là, il y a une espèce de « c'est atroce ». Mais c'est normal, c'est dedans, les autres, ceux dehors. Alors peut-être que ça se retrouve dans le langage, après tout. Mais quand même, je m'étais dit toujours « tiens, c'est étrange ». Et alors, je voyais qu'il y avait certains aspects des transformations du corps féminin ou des événements du corps féminin qui étaient parfois mis en lumière dans la littérature. On a peu de scènes d'accouchement, mais on en a. On a des scènes d'avortement, mais là encore... comment dire, ça peut être du côté de la revendication, c'est aussi du côté de la douleur, etc. Et je me disais, mais tiens, après tout, le déroulement ordinaire, finalement, du corps de la femme, des règles, de la ménopause, dont on parle même pas, on n'en parle pas dans les livres, on n'en parle pas ailleurs, c'est un truc, c'est dégoûtant, personne ne va en parler, c'est atroce, même les médecins ne veulent pas en parler, on se dit, mais c'est étonnant, parce que c'est très intéressant quand même, ce qui se passe à ce moment-là, à la fois physiquement, mais aussi à quoi on a accès après, qu'est-ce que ça signifie, c'est une question qu'on peut se poser, qu'est-ce que ça signifie, quelle femme on est, ensuite, quand on n'est plus dans la reproduction, vu que ça n'arrive qu'aux femmes, ça de ne plus être dans la reproduction, ou que ce soit vraiment plus possible. C'est passionnant quand même. Et ça, alors vraiment, c'est interdit d'en parler. Je ne sais pas, c'est pas intéressant, c'est sale, je ne sais pas très bien.
Mais en tout cas, moi, j'avais... Des trucs de femmes, en gros.
Des trucs de femmes. Oui. Mais après tout, puisque nous, on s'est intéressé aux problèmes de prostate et de jeux bande mou, etc., des hommes, qui sont effectivement passionnants. Mais pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas, puisqu'il n'y a pas de mauvais sujet littéraire, l'événement est un sujet littéraire. Et ça me paraissait être un événement colossal et colossalement passé sous silence. Et je me disais, tiens, est-ce qu'on peut faire œuvre poétiquement à partir de là.
D'ailleurs, Sylvie, elle est justement à cet âge où elle n'est plus une femme comme les autres, puisqu'elle ne peut plus reproduire. Elle a eu sa ménopause et elle regarde avec curiosité, attendrissement et tendresse ses sœurs, les autres femmes.
Le visage d'Hector la bouleverse. Les pommettes légèrement rouges, il sourit péniblement, conscient de l'attention excessive dont il est l'objet et s'efforçant de dissimuler le plaisir qu'il en retire. Doit-elle voler à son secours, franchir les quelques mètres qui les séparent pour se pendre à son bras et déclarer, par ce simple mouvement, « Ceci est mon homme ». Hector n'apprécierait sans doute pas. Sylvie, quant à elle, n'éprouve pas la vigueur agressive qu'il faudrait déployer pour accomplir un tel acte. Elle est plutôt amusée, touchée, curieuse par-dessus tout de ce qui se passe dans la tête de ses sœurs, ces êtres dont elle partage la physiologie et le destin. Elle tente de s'imaginer à leur place, minaudant, engorgeant son rire, alourdissant ses paupières pour plaire au poète français, au philosophe étalon, à Hector, son mari qu'elle n'a jamais regardé autrement que d'un œil candide et confiant. Elle a croisé certaines de ces femmes durant les 2 mois qu'ils ont déjà passés ici. Au supermarché, sur le campus, en forêt. Elle les a vues en jogging, les cuisses quelque peu boudinées par le tissu trop fin qui laisse apparaître le relief attendrissant de la cellulite. Elle les a vues, les yeux cernés, conduisant une poussette chargée de paquets, résonnant inlassablement un enfant en pleurs pendu au bout de leurs bras. Elle les a vues, les cheveux décoiffés, se cachant pour fumer une cigarette entre deux courses, les épaules basses, sous le poids de leur cartable, bourrées de copies, de livres et du reste. Biberons et stylos, carrés de coton et blocs de papier lignés, listes de courses et copies à corriger, diaphragmes et figurines en plastique, cartons d'invitation à un anniversaire et permis de conduire, parfums aphrodisiaques et liniments pour fesses fragiles, vitamines pour la repousse des cheveux et compotes sans sucre ajouté, édition bilingue de poésie du Moyen-Âge et catalogue de jeux éducatifs, mascara et feutre à paillettes, timbre-poste et autocollants de super-héros. Plonger la main dans leur sac provoque l'écœurement ou le fou rire. Leur sac, leur vie, leur personnalité, leur joie, leur croix, leurs conditions. Sylvie n'a pas de sac. Elle met ses clés dans une poche, sa carte de crédit et son permis de conduire dans une autre.
Agnès de Sarthe, cette Sylvie, votre héroïne de La chance de leur vie, c'est une héroïne du quotidien, c'est une femme qui observe, qui parle peu, qui regarde énormément et qui, au fond, raconte la vie. On voit la vie à travers ses yeux.
Oui, c'est l'avantage d'avoir un personnage inactif. Il a du temps pour la contemplation. Mais c'est vrai aussi que là encore, c'est un peu... C'est une provocation de ma part de prendre un, et c'est pas la première fois que je le fais, de prendre un personnage qui n'agit pas.
C'est un bon poste d'observation.
Bah oui, mais c'est un peu le double de l'écrivain, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si je dois m'incarner, et je m'incarne forcément quelque part dans tout ce que j'écris, il y a une incarnation de l'écrivain dans ce personnage de femme qui s'est retirée du jeu. Sans amertume, parce qu'elle jouit aussi de l'observer, de l'analyser, d'y réfléchir. Et dans ce regard qu'elle porte sur des femmes plus jeunes qu'elle et plus occupées qu'elle, il y a aussi une tendresse et une admiration, et en même temps la conscience que ben c'est pas si mal d'en avoir fini avec ça. Et il y a pas de tristesse là-dedans ou de mais c'est là encore une fois, c'est un pari, c'est une proposition, parce que c'est vrai que l'âge, le vieillissement sont très difficiles à supporter. On perd des capacités, on perd de la tonicité, on perd de l'énergie, la douleur entre en jeu, devient une compagne, il y a toutes sortes de choses qui se transforment. Mais il y a aussi une sorte de... moi, en tout cas, je veux profiter de l'accalmie pour jouir du spectacle, parce qu'il y a un spectacle, le spectacle du monde. En tout cas, moi je trouve qu'on s'en, moi en tout cas je m'en lasse pas.
When the little bluebird who has never said a word starts to sing, spring, spring. When the little blue bell at the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above, it is nature that is all simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In spring the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it. So let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. Let's fall in love.
Mère Vagabonde sur France Inter.
Lester les voyait tels qu'ils se voyaient eux-mêmes, comme des corps physiques échappés par malchance ou par hasard du champ gravitationnel de l'amour. Des petits astres solitaires voués à l'errance. Dès qu'ils entraient en contact avec lui, la magie opérait. Ils se sentaient justifiés, on les contemplait. Lorsqu'une nouvelle recrue débarquait dans le cercle, son adoption par tous était immédiate, sans être du tout raisonnée. Ils s'aimaient les uns les autres parce qu'ils aimaient Absalom, Absalom. Quoique aimer ne fût peut-être pas le bon mot. Ils étaient reliés. Il les avait touchés avec ses petites mains, ses mains si douces, et chacun son tour était entré dans la ronde. Ils s'étaient attachés les uns aux autres. Une fois dans le groupe, on se sentait tranquille et protégé, prêt à tout. Absalom, Absalom n'exigeait rien d'eux, ou alors si peu, des renoncements qui ne leur coûtaient pas, qui étaient comme des libérations. Ils chantaient, dansaient et se parlaient. Ils parlaient de leur vie, de leurs aspirations, ils parlaient comme jamais on ne parle, aussi sincères que s'ils avaient été seuls, aussi animés que face à un public patient, recueillant le moindre propos avec attention et bienveillance. Il n'y avait rien que l'on ne pût dire, rien de honteux, rien de ridicule, rien d'indiscret non plus. Les mots jaillissaient des bouches comme lavés, comme prononcés pour la première fois. S'ils étaient battus, ils disaient « on me bat ». S'ils étaient violés, ils disaient « on me viole ». S'ils tuaient des chiens, ils disaient « je tue des chiens ». Certains faisaient pipi sur eux la nuit, d'autres aimaient vomir. Ils disaient « quand j'ai trop peur, je mets ma main dans ma culotte et après je sens mes doigts et ça va mieux ». Ils disaient « je regarde des films de guerre sans le son et je fais tous les bruits ». Ils disaient « quand je fume ça, quand je croque ça, je veux être au bord de mourir. Je veux marcher sur cette crête comme un funambule sur son fil. » Ils disaient « j'aime lire de très gros livres auxquels je ne comprends rien. J'ai couvé un œuf dans mon lit, mais le poussin n'est jamais sorti et maintenant l'œuf est un peu cassé et commence à sentir mauvais. Je voudrais que la prof de maths se fasse écraser par un camion à ordures. » En rentrant chez eux, ils se sentaient épuisés et libres. Ils s'endormaient en général très tôt les soirs de réunion, parfois sans manger, sans fumer, sans se droguer. Leurs parents ne s'en rendaient pas compte, car leurs parents ne s'intéressaient pas du tout à eux.
Agnès de Sarthe, il y a ce personnage de l'adolescent dans La famille Vickery qui part aux États-Unis. Il s'appelle Lester, mais dès l'avion qui l'amène aux États-Unis, il change de prénom. Il veut s'appeler Absalom, Absalom. Alors évidemment, on pense au livre de William Faulkner, mais on pense aussi au livre de Samuel dans la Bible. Absalom n'est pas un personnage très agréable. Et cet enfant, en fait, il est comme le point névralgique de toutes nos propres névroses dans ce monde-là. Il a ressenti la violence en France de plein fouet. Rien n'est caché à nos enfants, ils savent tout. D'ailleurs, il le dit sans cesse, ils sont reliés les uns aux autres. Il pourrait faire juste une crise d'adolescence habituelle, mais dans ce monde où l'information circule, où il y a des portables et des écrans allumés en permanence, il choisit une autre voie, qui est une sorte de voie de rédemption, un peu une crise mystique d'ailleurs, et il entreprend de sauver ce qu'il peut sauver parmi ses compagnons de classe, ceux qui sont, on l'entend, battus, violés, abandonnés par leurs parents, mal aimés. Et en fait, c'est Sylvie qui va remettre les pendules à l'heure, parce qu'elle dit, en tout cas, pas au nom de Dieu, pas au nom de Dieu, on tue pour ça. Mmh. C'est vraiment, j'ai l'impression, presque le cœur caché du livre.
Oui, et c'était difficile à aborder parce que là, comme souvent, je pense une chose et son contraire. Je m'explique. Quand j'ai abordé les adolescents dans ce livre, c'était un moment capital de l'écriture et très heureux, je dois l'avouer, parce que très libérateur, parce que c'est vraiment une crainte que j'ai. Je me dis, c'est pas forcément qu'on lègue un monde pourri ou pourrissant à nos enfants. Je crois que tout le monde, que toutes les générations ont cette impression de pas avoir assez bien œuvré pour que le monde soit vivable. Enfin là, il est particulièrement pas. Mais surtout, ce que j'avais l'impression de constater, c'était que non seulement ce bon monde n'était pas en très bon état, mais en plus, il était pollué surtout par la vision constante, l'information constante, le fait que les enfants les autres aussi, mais c'est pire pour les enfants, voient tout, même ce qu'ils n'ont pas envie de regarder. L'image vient à eux, on leur répond avant qu'ils aient posé la question. Ils voient avant de savoir, avant de demander. Et je me disais, mais tiens, mais à quoi on aspire si on est un enfant et qu'on a déjà tout vu, tout connu, tout compris, tout su, tout subi? Qu'est-ce qui reste après? Et donc, c'est cette question-là qui me taraudait. Et je me disais, alors je me mettais à cette place-là et je me disais, voyons voir. Je suis un enfant, un adolescent, et je me dis, ah, je vais voyager. Mais où aller? On a déjà été partout. Il y a plus de terre inconnue. Il y a plus d'espace à défricher. Partout, ça capte d'une certaine manière. Et puis, si je veux regarder vers l'avenir, alors qu'est-ce que je vois? Les centrales électriques qui vont exploser. Rien ne fait envie. Alors comment on fait pour continuer? Je me disais, où on va? Par où on s'échappe? C'est quoi le trou de souris? Et je voyais que malheureusement, une des échappées possibles, c'était l'échappée mystique. C'était le recours à la transcendance, qui peut être une voie et qui, chez Lester, avec ses amis adolescents, est une voie positive. Mais parallèlement à ça, c'est exactement la même chose qui mène ces dernières années à la barbarie, à l'asservissement. Et donc, je me trouve là devant une sorte de paradoxe, et je voulais mettre en scène chaque personnage en fait endossant un des discours, le discours de l'enfant qui dit mais on n'a plus que ça, et la mère qui dit mais surtout pas ça. De là est née cette confrontation entre Sylvie et son fils Lester.
Ce livre, Agnès de Sainte, La chance de leur vie, le titre est assez ironique parce qu'au fond c'est quand même une année assez perturbante qu'ils ont passé là-bas. C'est aussi, pour vous qui êtes une américaniste distinguée, vous êtes traductrice, vous aimez la littérature, la culture américaine. Au fond, c'est un constat un peu doux amer, c'est de dire oui, s'offrir des parenthèses en allant dans le pays dont on rêve, finalement, auquel on appartient, quelle que soit notre nationalité d'origine. Au fond, ça ne résout rien. Ils reviennent. Est-ce que ça veut dire que c'est en revenant chez soi qu'il faut peut-être trouver ses propres solutions?
Alors, j'ai pas de message particulier à délivrer. Je pense que c'était surtout là encore une histoire de mise en scène ou de donner à voir quelque chose. Et ce que je voulais donner à voir, c'est que on est dans une situation historique un peu inédite où l'ailleurs n'existe pas. L'inconnu n'existe pas et l'ailleurs non plus. Il continuera quand même d'exister parce que c'est le principe de la vie de produire des surprises et des détours et des recours, mais il n'existera plus tel qu'on l'a connu jusqu'alors.
Eh bien, peut-être dans les livres, peut-être, et surtout dans les romans, Agnès de Sarthe, nous partageons cette opinion que le roman, justement, c'est un ailleurs dont on a besoin. Merci à vous, Agnès de Sarthe, d'être venue aujourd'hui. Je rappelle que La chance de leur vie vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Bonne route à vous.
Merci, Kathleen.
Au revoir.
Au revoir.